qui est au milieu de nous.
Alléluia.
Tu es en train d'agir déjà.
Gloire à ton nom, Seigneur.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Sois guéri au nom de Jésus. Que cette tumeur disparaisse au nom de Jésus. Alléluia. Croyez tout simplement, tout simplement. Alléluia. Jésus seul guérit. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. C'est toi qui nous donnes cette joie. Une joie que le monde ne peut pas nous donner. Une joie que le monde ne peut pas nous ravir. La joie qui vient de ton cœur, Seigneur. Tu l'as donné à tes disciples avant de partir. Et maintenant, nous réalisons que cette joie est notre salut. Cette joie est aussi une puissance de guérison. Car ta parole nous dit qu'un cœur content est un bon remède. Alléluia. Seigneur, ton peuple t'a béni de tout son cœur. Ton cœur a été satisfait et nous savons maintenant que tu veux nous bénir, que tu veux nous consoler, nous édifier, nous guérir. Fais comme tu le voudras, Seigneur, cet après-midi. Remplis-nous tous de ta compassion divine. Renouvelle ta compassion dans mon esprit. Afin que des fleuves d'eau vive puissent couler. Alléluia. Et comme autrefois, Seigneur, que tu étendes ta main pour guérir, sauver et délivrer. À toi seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Avant de prier pour les personnes qui le désirent, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et comme c'est Pâques aujourd'hui, nous allons voir quatre vérités libératrices de la résurrection. Quatre vérités que nous devons savoir, car la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Il n'y a que la vérité qui rend libre. Même des bonnes paroles, si elles ne sont pas la vérité, elles ne rendront pas libre. Il n'y a que la vérité qui libère. Quatre vérités libératrices sur la résurrection. Alléluia. C'est pour cela que nous allons lire maintenant quelques versets. D'abord dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au chapitre 4, les versets 32, 33 et 34, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Ce passage est merveilleux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de quoi ? Beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Car le message qui a bouleversé les premiers chrétiens, les premiers apôtres, c'était la résurrection de Jésus. C'était le message qui les animait. Car pour un temps, ils ont cru que Christ était mort, que les hommes l'avaient crucifié, que finalement, il s'était peut-être trompé. Mais lorsque Jésus est ressuscité, ils ont vu qu'ils ne se sont pas trompés. Ils ont vu que ce que Jésus avait dit était la vérité. Il leur avait dit combien de fois le Fils de l'homme va à Jérusalem pour souffrir, pour être rejeté. On le crucifiera, mais le troisième jour, il ressuscitera des morts. Alléluia! Pendant quelque temps, ils ont cru que Jésus était peut-être même un imposteur. Ils ont dit, celui-là, il nous a peut-être trompés. C'est peut-être ce que Thomas a pensé. Il était tellement attaché au Seigneur. Il a tellement vu la gloire du Seigneur qu'il ne pouvait pas penser qu'un tel homme puisse être crucifié. Je dis, mais c'est pas possible! Un homme qui a fait de tels miracles, un homme qui a parlé comme lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme, jamais homme a fait des miracles comme cet homme! Ce n'est pas possible qu'il se laisse crucifier, c'est impossible! Comment ça se fait? Non, je ne peux pas le croire! Mais finalement, il s'est dit, mais ça fait 3 jours qu'on ne le voit pas! 3 jours qu'on ne le voit pas, on n'en entend plus parler! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il m'a donc trompé? Est-ce que j'ai eu tort de mettre ma confiance en lui? On les comprend, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples pour leur montrer qu'il était bien vivant. Et il n'est pas parti avant qu'ils soient convaincus qu'il était vivant. Alléluia! Et il lui a fallu 40 jours pour cela. Mais je vous assure, au bout de 40 jours, ils n'étaient plus les mêmes hommes et les mêmes femmes. Ils n'étaient plus les mêmes, c'était terminé. Ils étaient eux-mêmes de nouvelles personnes. Enfin, Dieu avait trouvé un groupe d'hommes qui avaient compris son message, qui avaient reçu son message, qui avaient expérimenté sa puissance. Et maintenant, avec cette poignée d'hommes, le Seigneur pouvait faire son œuvre sur cette terre. Alléluia! Et avec une douzaine d'hommes, quelques-uns, oh, vous savez, il n'y en faut pas beaucoup avec le Seigneur. Nous pensons que lorsque nous sommes beaucoup, alors ça ira mieux. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Pour que Dieu agisse, il en faut peu. Mais il faut les bons. Alléluia! Amen! Il en faut peu, mais alors le peu qu'il y a, je vous assure, c'est pas des hommes à qui vous pouvez dire « Alors, quoi, toi? Tu crois au Seigneur Jésus ?» Comme Pierre avant, hein, quand la petite servante est venue. « Non, moi je connais pas cette personne. » Et voyez, Pierre après cela, après la Pentecôte, ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez renié, mais lui-même avait renié le maître. Et pourquoi est-ce qu'il dit cela? Est-ce que c'était de l'hypocrisie? Mais ce n'était pas de l'hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'il disait cela? Parce qu'il était une nouvelle personne. Le vieil homme avait disparu. Alléluia! C'est pourquoi le vieux Pierre qui avait renié le maître, il est inné. C'était pas, il n'existait plus, celui-là. C'est pourquoi il pouvait dire avec assurance et avec autorité, celui que vous avez crucifié et rejeté. Pourtant, il l'a fait, lui. Mais il était transformé. Mais avec ces hommes-là, eh bien, Dieu a bouleversé le monde. Alléluia! Et il n'en faut pas beaucoup pour bouleverser une région, mais il en faut quelques-uns et des bons. À ceux qui ont peur des hommes. Combien ont peur et ont la crainte des hommes? Ils veulent plaire un peu à tout le monde. Ah bon? Comment? Tu veux plus que je prêche sur la résurrection? Oui, calme-toi un petit peu. Résurrection, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, calme-toi un peu, hein? Tu ne parleras plus de résurrection, tu parleras de, je sais pas, inspiration. Pourvu que ça finisse par Sion, ça sera bien. Les gens, ils penseront que c'est presque la même chose. Mais ces hommes étaient absolument sans crainte. Et personne ne pouvait les arrêter. Si vous lisez les Actes des Apôtres, on les mettait en prison, un ange venait les en débarrasser, et ils prêchaient encore, et ils savaient plus ce qu'il fallait faire, les pharisiens. On leur disait, taisez-vous, mais alors ils répondaient, mais comment nous taire? Jugez-vous-même. S'il faut obéir à Dieu qu'à vous, jugez-le vous-même. Nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons vu et entendu. C'était des hommes auxquels on ne pouvait pas fermer la bouche comme cela. On pouvait plutôt leur couper la tête que leur fermer la bouche. Oui, chers amis, voilà ce que Dieu recherche aujourd'hui. Et c'est la vision de la résurrection qui nous donne cette hardiesse, n'est-ce pas? De nous-mêmes, nous ne sommes rien du tout. Mais la puissance de la résurrection fait de nous des hommes et des femmes nouveaux qui n'ont qu'une crainte, la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de déplaire à Dieu. Celui qui craint Dieu ne craindra plus aucun homme. C'était le moment de dire alléluia.
Alléluia.
Je répète, vous n'avez pas bien compris. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui ne craindra aucun homme.
Alléluia.
Si vous craignez les hommes, vous ne craignez pas Dieu. Car la Bible dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel sera protégé. Vous remarquez, celui qui a la crainte des hommes, c'est celui à qui arrivent toutes les pires ennuis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas protégé. Pourquoi? Parce qu'il essaye de se protéger lui-même. C'est pour cela d'abord qu'il a la crainte. Il essaye de se protéger. Comme il essaye de se protéger lui-même, Dieu ne le protège pas et voilà pourquoi il a toujours des ennuis. Tandis que celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui qui la crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné, est protégé. C'est pourquoi, tant que nous mettons notre confiance en lui, Dieu nous protégera. Alléluia. Et nous délivrera de tout piège. Quelles sont donc ces quatre vérités que je vais donner maintenant brièvement et que nous devons savoir? La première vérité, nous la trouvons dans Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, on peut lire à partir du verset 23, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » On pourrait traduire cette dernière expression, ressuscité pour notre justification, on pourrait mieux traduire, ressuscité après nous avoir justifiés. Autrement dit, la première vérité libératrice que la résurrection nous apporte est celle-ci, c'est que nous sommes justifiés. Et c'est une vérité importante. Si Jésus ne nous avait pas justifiés, il ne serait pas ressuscité des morts. Parce qu'il est ressuscité des morts, désormais, ceux qui croient en Jésus, et croire veut dire se confier dans, abandonner sa vie, soumettre sa volonté, obéir à sa parole. Voilà ce que ça veut dire, croire. Beaucoup disent maintenant je crois, mais ils n'obéissent pas. La Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent même. Voyez-vous que croire en Dieu ne suffit pas, parce que les démons aussi croient. Ils tremblent, mais ils n'obéissent pas. Et bibliquement, croire, cela veut dire obéir au Seigneur, s'abandonner au Seigneur, soumettre sa vie au Seigneur. Quand les premiers chrétiens disaient que Jésus-Christ est Seigneur, savez-vous ce que cela voulait dire? Les premiers chrétiens comprenaient très bien cette pensée. Parce que de ce temps-là, lorsque quelqu'un disait que Jésus-Christ est Seigneur, il risquait la mort. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il vivait du temps des Romains. Et qui était le Seigneur à ce moment-là? C'était César. César était le Seigneur qui devait être servi, qui devait être adoré. Et tous ceux qui ne voulaient pas soumettre leur vie à César, eh bien, ils passaient par le martyre. C'est pourquoi lorsque quelqu'un confessait que Jésus-Christ est Seigneur, cela voulait dire qu'il était prêt à risquer sa vie pour le maître. Il était prêt. Pourquoi? Parce que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou l'on aimera l'un et on haïra l'autre. Mais aujourd'hui, on en devient spécialiste pour servir deux maîtres. Et comme on en sert deux, on pense même qu'on est sage et intelligent, mais voyons. C'est l'époque de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse. On peut arranger tout ça maintenant. Ah, on est des bons pharmaciens spirituels. Une dose de A, une dose de B. On sait bien doser les choses, mais on ne sait pas prendre position. Donc la vérité importante est celle-ci, chers amis. Lorsque quelqu'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur, alors celui-là, il est sauvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il adhère à une religion, comme maintenant beaucoup le font. Adhérer à une religion ne sauve personne, chers amis. Moi, j'avais ma religion et ma religion ne m'a jamais sauvé. Si vous me demandez même ma religion, je vous dis même que je n'ai pas de religion. Je dis, comment? Je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais entendu un prédicateur qui dit qu'il n'a pas de religion. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes pasteur et vous dites qu'il n'a pas de religion? Non, je n'ai pas de religion. Mais j'ai quelque chose de meilleur. J'ai un sauveur. Alléluia! Beaucoup ont une religion, mais ils n'ont pas de sauveur. N'est-ce pas vrai, chers amis? Il faut voir les choses comme elles sont. Il faut voir les choses comme elles sont. Moi, j'avais ma religion, je vous parle par expérience, mais je n'avais pas de sauveur. Et si quelqu'un m'avait même dit, attention, tu es sauvé, sachant pertinemment dans mon cœur que je n'étais pas en règle avec Dieu, on m'aurait rendu le plus mauvais service, n'est-ce pas vrai? On m'aurait rendu le plus mauvais service. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit en Dieu qu'il est automatiquement sauvé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une religion qu'il est automatiquement sauvé, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas la foi des premiers chrétiens. Relisez la Bible, revoyez toutes ces choses. Pour eux, croire, c'était l'abandon de leur ancienne vie. L'abandon de tout ce qui pouvait déplaire à Dieu. C'était vivre entièrement, totalement et définitivement pour le maître, jusqu'à mourir pour lui. Et lorsque quelqu'un croit que Jésus-Christ est le Seigneur, la Bible dit qu'il est justifié. Et qui veut dire le mot justifié? C'est ce que je voulais appuyer maintenant. Quand quelqu'un est justifié, être justifié ne veut pas dire être propre juste. Il y en a qui comprennent mal aussi cela. Le propre juste, c'est celui qui se vante lui-même de ses œuvres, de ses mérites, de sa religion même, de ses prières. Non. La Bible dit que Dieu ne fait pas de nous des propres justes, mais des justes, des hommes justifiés. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu nous donne la justice de Jésus, sa justice à lui, lui qui était le pur, le saint, sans tache, séparé des pécheurs, il nous donne sa justice comme un cadeau, comme un don, alléluia! Vous n'avez rien à mériter, vous ne pouvez rien mériter, au contraire, nous méritions la mort et la condamnation, car la Bible dit que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Nous étions comme les gens de ce monde, emportés par le train de ce monde, fils de rébellion, enfants de ténèbres. Mais lorsque nous avons reçu sa grâce et son pardon, un miracle se produit. Nous sommes justifiés. Et qu'est-ce que cela veut dire? Être justifié, écoutez bien, c'est là le point important maintenant. Être justifié veut dire se présenter devant Dieu comme Jésus se présentait devant son Père. Et comment Jésus se présentait devant son Père? Comment? Sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment d'indignité et sans aucun sentiment d'incapacité. C'est extraordinaire cela, n'est-ce pas? C'est pourquoi les premiers chrétiens avaient un courage extraordinaire. C'est pourquoi Pierre se tenait devant la foule, étant justifié. Il n'avait plus aucun sentiment de culpabilité. Le pardon de Dieu nous libère de la culpabilité. Alléluia! C'est pourquoi, malgré tout ce qu'il a fait, eh bien, le pardon de Dieu libère. Et la résurrection nous donne ce message et ce pouvoir. Nous sommes justifiés. Par grâce. C'est-à-dire que vous pouvez vous tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité. Alléluia. Vous êtes maintenant libres par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous pouvez vous tenir devant Dieu, devant les hommes et même devant le diable sans aucune crainte. Sans aucune crainte. C'est pourquoi les premiers chrétiens étaient invincibles. Rien ne les arrêtait. Parce qu'ils étaient revêtus de la justice de Jésus. Alléluia. Gloire à son beau nom. Alléluia. Une deuxième vérité maintenant. La deuxième vérité est celle-ci. C'est que par la résurrection de Jésus, nous sommes libérés de la puissance du diable. Car quand Christ, c'est l'épître aux Éphésiens qui nous dit cela, quand Christ est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité. C'est Éphésiens, chapitre 1er, et les versets 20, 21, 22, 23, et le chapitre 2 aussi. Donc, la deuxième vérité importante est celle-ci. Si nous sommes justifiés, nous ne sommes pas seulement, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous ne sommes pas seulement justifiés, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Voilà pourquoi un chrétien peut avoir l'assurance de son salut. Il doit avoir l'assurance de son salut. L'apôtre Jean le dit bien aussi. 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia! C'est une assurance, c'est une certitude. Dites-moi, si Jésus n'apportait pas cela, il n'apporterait rien du tout. Il n'apporterait rien de plus que les autres religions. Il n'apporterait rien de plus que les autres religions. Mais Jésus n'a pas apporté une religion, il a apporté une vie. Alléluia! Alors la deuxième vérité est celle-ci. Par sa résurrection, nous sommes justifiés et par sa résurrection, nous sommes délivrés de la puissance du diable. Quand Christ est ressuscité, il a détruit la puissance du diable et il s'est assis au-dessus de toute domination. Et nous sommes aussi assis avec lui. Alléluia! Il a vaincu Satan pour nous. Nous étions en lui lorsqu'il a vaincu Satan. Alléluia! C'est pourquoi maintenant, la puissance de Satan est brisée dans ta vie. Si tu crois en Jésus le ressuscité, tu n'as plus à vivre comme un esclave, tu n'as plus à penser comme un esclave. Combien de chrétiens parlent, pensent et agissent comme des esclaves? Ils ne savent pas qu'ils sont libres, ils ne savent pas qu'ils sont libres. Ils ne savent pas que la puissance de Satan a été vaincue lorsque Christ est ressuscité. Mais il n'est pas ressuscité tout seul. Éphésiens nous dit que nous sommes ressuscités avec lui. C'est le moment de dire alléluia. Avec lui. Alléluia. Il ne nous a pas laissés en bas. On est ici bas, d'accord. Mais on est quand même avec lui. C'est un miracle. On est assis ici, mais vous êtes en même temps assis dans les lieux célestes. Allez, expliquez-moi cela. Moi, en tout cas, je ne peux pas vous expliquer. Je ne suis pas fort en maths, mais c'est comme ça. On est assis ici bas, mais en même temps, vous êtes assis dans les lieux célestes. Avec lui. Assis dans les lieux, au-dessus de toute domination. Il a vaincu Satan. C'est pourquoi tu as vaincu Satan. Tu es libre maintenant. Et quand tu parles de l'ennemi, des puissances des ténèbres, parle toujours de lui comme un ennemi vaincu. Alléluia. Si tu es ressuscité avec Christ, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir. Maintenant, l'ennemi a sur toi que le pouvoir que tu lui donnes. C'est tout. Voilà la vérité toute simple. Il n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Si tu lui donnes un peu de pouvoir, il a un peu de pouvoir. Si tu lui donnes beaucoup de pouvoir, il en a beaucoup. Mais si tu ne lui en donnes pas du tout, il n'en a pas du tout. Alléluia! Parle donc, la résurrection, c'est cela. C'est être libéré de l'emprise du diable. As-tu une passion? As-tu un lien? As-tu des problèmes apparemment insurmontables? Redresse-toi,
et dit, Seigneur, j'ai été ressuscité avec toi. J'ai été libéré de la puissance des ténèbres. Vous n'avez pas à être libéré, vous l'êtes déjà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant confesser votre libération. Dans un sens, on ne cherche pas sa libération. On est déjà libéré. Et si on ne l'est pas encore, on doit tout simplement croire qu'on l'est et on doit le confesser. Parce que l'ennemi en profite, n'est-ce pas? Puisqu'il sait que vous ne savez pas que vous êtes libéré, alors il vous fait croire que vous êtes encore lié. C'est un menteur. Et c'est comme cela qu'il vous a. Mais vous, vous savez la vérité. Alléluia. Un jour, un serviteur de Dieu était en train de chasser des démons. Et à un moment donné, il avait la peine à chasser un démon. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la Bible. Il a lu Luc 10, 19. Vous connaissez Luc 10, 19? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voyez-vous le passage qu'il est dit? Écoutez bien. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, voyez-vous? De marcher. Et quand le serviteur de Dieu confessait cette parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, l'ennemi qui était dans la personne a dit, arrête, arrête, tu me fais mal. Arrête de marcher sur moi. C'est exactement la vérité. Arrête de marcher sur moi. Tu me fais mal, tu me fais mal. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marchez-lui sur la tête un peu. Ne marchez pas sur la tête de votre frère, ou de votre mari, ou de votre petite femme. Marchez sur la tête de l'ennemi. Et vous verrez qu'il doit obéir. Et une autre fois, un autre prédicateur essayait d'exorciser des démons. Et le prédicateur lui disait, « Tu sais que tu es vaincu à la croix, et je le sais aussi. Tu le sais que tu as été vaincu à la croix, tu dois t'en aller. » Au bout d'un certain temps, le démon a dit, « Oui, je le sais, mais ne le dis pas. Ne le dis pas. Ne le dis pas autour de toi. Ne le dis pas aux autres que je suis vaincu. » Ne le dis pas! Et depuis ce jour-là, ce prédicateur l'a dit encore 10 fois plus, 100 fois plus. Voilà la personne qu'il faut contredire, c'est le diable. Et vous n'avez pas bien compris, il fallait dire Alléluia. Voilà la personne qu'il faut contredire, c'est le diable. Il y en a qui sont spécialistes pour contredire leur frère ou leur soeur. Mais la personne qu'il faut contredire, c'est le diable. Ne le dis pas, ne le dis pas. Oui, je le sais que je suis vaincu à la croix du calvaire. Je le sais, mais ne le dis pas. Ne le dis pas! Quand l'ennemi vous dit de ne pas dire quelque chose, c'est s'il faut justement dire. Alléluia, alléluia. Dites-le, dites-le. Dites-le, dites-lui. Faites-lui, rappelez-lui qu'il est vaincu. Rappelez-lui qu'à la croix du calvaire, quelque chose s'est passé. Là, l'ennemi a été vaincu. Écoutez-moi bien une chose. Et cette autorité ne s'exerce pas seulement de la part d'un prédicateur. Cette autorité est donnée à tout enfant de Dieu.
Amen.
Il n'y a pas de spécialiste dans l'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous ici, mais il faut le croire de tout son cœur aussi. Il ne faut pas faire du cinéma avec le Seigneur. Car la puissance est dans le nom de Jésus, non pas dans mon nom, dans un autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui fait trembler le diable. Aucun nom dans ce monde, il n'y a que le nom de Jésus.
La phase 1 est terminée. Veuillez tourner la cassette, s'il vous plaît.
Je vous donne un petit conseil. Mettez une bonne armure, car il n'y a aucun autre nom. Vous savez, c'est avec l'ennemi que vous voyez qui a autorité devant Dieu. C'est avec l'ennemi que vous voyez. C'est quand vous vous attaquez à lui, vous saurez qui a vraiment de l'autorité sur lui. Il n'y en a qu'un. C'est le nom de Jésus. En mon nom. Et en son nom, vous pouvez, mon cher ami, mon frère, ma soeur, toi qui soupires à une délivrance ou à quelque chose, commence à exercer cette autorité. Ne dis pas, je ne suis rien. Tu n'es rien, je ne suis rien.
C'est pas en ton nom que tu agis, mais c'est au nom de Jésus. La résurrection prouve que nous sommes libres. Que nous sommes libres. La troisième vérité de la résurrection. Non seulement nous sommes libérés, mais nous régnons avec Christ. Et oui, il nous a libérés. Pourquoi ? Pour régner. Alléluia. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Vous êtes assis pourquoi dans le ciel ? Pour vous reposer ? Moi, j'ai pas l'impression. Oui, bien sûr, on va se reposer au ciel, c'est vrai. On est tous fatigués hein, de temps en temps. C'est bien, on se reposera, bien sûr. Mais quand il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est pas une position de repos. Être assis dans les lieux célestes, c'est une position d'autorité. Avec Christ, cela veut dire que maintenant, vous devez exercer votre autorité. Vous devez le faire, et si vous ne le faites pas, Dieu ne le fera pas à votre place. Voilà pourquoi certains sont perplexes et disent, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien ? Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Maintenant, c'est toi qui dois agir. C'est toi ! Bien sûr, les prédicateurs, les ministères sont là pour vous aider. Comprenez aussi, il ne faut pas aussi aller dans l'autre extrême, n'est-ce pas ? Et on est là pour vous aider. Mais, même si quelqu'un d'autre doit vous aider, cela n'est jamais pour vous empêcher d'exercer votre autorité. C'est toujours pour vous aider à exercer votre autorité. Amen ? Parce qu'il y en a un peu qui sont des petits malins. Ils vous font croire que vous ne pouvez rien faire sans eux. Ça, ce n'est pas biblique. Ils veulent vous faire croire qu'ils sont un peu les super. Et que sans eux, vous ne pouvez rien faire. C'est un mensonge. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, la puissance de Dieu peut se manifester dans ta vie. Mais commence dans ta propre maison. Il y en a qui commencent à courir un peu à gauche, à droite, un peu de partout. Commence dans ta maison. Dans ta maison. Avec toi-même d'abord, premièrement. Ensuite, avec ta petite femme, ton petit mari, tes enfants. Quand tu vois l'ennemi agir, commence à réagir. Commence à t'opposer. Commence à la maison. C'est à la maison que Dieu te met à l'épreuve. Commence ! Ne pense pas que Dieu va t'appeler plus loin, alors qu'à la maison, tu es rebelle, tu es froussard et plein de crainte. À la maison, Dieu te donne un ministère. Oh, à la maison, c'est pas intéressant. Il n'y a personne pour me regarder. Il n'y a personne pour applaudir quand il y a un miracle. Non, ça ne m'intéresse pas, moi. Non. Non, moi, j'aime bien être admiré. Ah, voilà, je suis là. Ah, il fallait bien que j'arrive, hein, sinon vous n'en sortez pas. Ah oui, on n'ose pas le dire, mais dans le fond du cœur, bien souvent, c'est comme ça. Non, c'est à la maison. À la maison, dans l'obscurité, alors que personne ne te voit, c'est là que Dieu te met à l'épreuve. C'est à la maison que Dieu te voit tel que tu es. C'est à la maison, tu ne peux pas mettre de masque. Amen. Tu ne peux pas mettre de masque. Peu m'importe ce que vous êtes en dehors de la maison, cela ne m'influencera pas du tout. Même si on me dit que vous faites les plus grands miracles, cela ne m'influencera pas du tout. Ce n'est pas une preuve que Dieu vous approuve et que Dieu est avec vous. C'est à la maison qu'on voit qui vous êtes. Amen. C'est à la maison. À la maison. À la maison, qui êtes-vous chez vous? C'est là le test. Autrement, le reste risque d'être de la comédie et du cinéma. Pour en mettre plein la vie aux autres. Troisième vérité. Par sa résurrection, nous régnons avec Christ. Alléluia. Avec Christ, voyez-vous, c'est pas sans lui. C'est avec. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Avec lui. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et il est ici, à Chambéry. À Chandeur. À Chandeur. Et dans la salle 1, 2, 3 à Chandeur. Jésus est là. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Il est là. Tu règnes avec lui. Mais tu dois exercer ton autorité. Tu dois dire non à l'ennemi. Tu dois parler avec autorité. Si certains parlaient avec autant d'autorité qu'ils parlent à leur femme, qu'il le fasse aux démons, il chasserait beaucoup de démons. La même autorité avec laquelle tu parles à ton mari ou à ta femme, si tu le faisais avec les démons, oulala, ça balayerait devant toi. Alors change un peu d'objectif. Non, change d'objectif, c'est pas là, c'est l'ennemi. Voilà, il est là. Parle avec autorité à l'ennemi et tu verras que ça va marcher. Ah, parfois il faut combattre, je suis d'accord. L'ennemi ne veut pas lâcher prise tout de suite, mais cela n'a pas d'importance. Le fait est de savoir qu'il est vaincu, que vous êtes libre et que vous avez l'autorité. Amen. Alléluia. Et pour terminer, une quatrième vérité à connaître, c'est que par la résurrection, nous avons cette vérité merveilleuse, que Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Si Dieu est ressuscité, alors rien n'est impossible à notre Dieu. N'est-ce pas vrai? Rien n'est impossible. S'il est ressuscité des morts, alors dites-moi, c'est le plus grand des miracles, la résurrection de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Le plus grand des miracles, donc on ne peut pas faire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire plus? Donc, il est le Dieu de l'impossible. Ne limitons pas le Seigneur. Ne limitez pas le Seigneur. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Il est le Dieu illimité. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans nos raisonnements. Ne limitez pas Dieu à votre foi aussi. Ne dites pas j'ai une petite foi ou j'ai une grande foi. Vous savez, il y en a qui racontent, qui disent du matin au soir qu'ils ont une grande foi et puis on ne voit rien du tout se passer dans leur vie. Ça ne sert à rien. Il y en a qui disent, mais vous savez, moi j'ai une grande foi. Hein. Puis ils sont plein de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi dans leur foi. Voilà le problème. Ils ont foi dans leur foi. Alors avoir foi dans sa foi, c'est pas ce qui vous délivre. Il vaut mieux avoir une petite foi, mais dans un grand Dieu. Alléluia. Il y en a qui ont une grande foi dans un petit Dieu. Vous n'avez pas dit Alléluia? J'ai trouvé que c'était bien ici. J'ai dit qu'il y en a qui ont une grande foi, mais en un petit Dieu. C'est tout juste si Dieu peut leur guérir un petit mal de tête. Non, nous avons certainement tous une petite foi. Mais là n'est pas le point important. Nous avons une petite foi, mais un grand Dieu. Amen. Alléluia. Un jour, et je termine par cela, et nous allons prier. Quelqu'un a voulu introduire Hudson Taylor, vous savez, le fameux missionnaire Hudson Taylor, qui a amené l'évangile en Chine. On l'a présenté, je ne sais où, c'est en Angleterre ou quelque part. Alors, le présentateur, enfin, il était là, il ne savait pas comment faire pour présenter le fameux missionnaire Hudson Taylor. Et il s'est dit, je vous présente maintenant le grand serviteur Hudson Taylor. Alors, Hudson Taylor s'est approché, il n'a rien dit. Et au petit bonhomme, là. Et il s'est adressé aux gens et il a dit, je suis le petit serviteur d'un grand maître. Et je crois qu'il a mis ainsi les choses en place. Nous sommes des petits serviteurs, nous avons peut-être une petite foi, mais nous avons un grand Dieu, un Dieu illimité. Amen. Alléluia. Ne regardez pas l'homme. Si vous comptez sur un homme, vous serez déçu. D'ailleurs, combien de fois vous avez été déçu parce que vous avez compté sur quelqu'un? Combien de fois? Sachez que votre foi dans un grand Dieu peut opérer des miracles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons nous courber dans la prière quelques instants. Et j'ai le sentiment qu'avant de prier pour les malades et les autres, j'ai le sentiment qu'il y a au milieu de nous des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel. Vous croyez peut-être en Dieu, je ne doute pas de cela, comme moi je croyais en Dieu. Vous pouvez même croire au Seigneur Jésus comme cela, comme moi je croyais. Mais vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Vous ne pouvez pas dire maintenant, si je meurs, je ne sais pas où j'irai. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Et quand quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut, comment peut-il résister au diable? Vous serez toujours ballotté par le malin si vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Mais Dieu vous la donne. Dieu vous la donne si vous vous repentez sincèrement de vos péchés. Si vous venez à Jésus pour dire, Seigneur, je suis pécheur. Je suis mort dans mes péchés. Vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Personne n'a la vie de Dieu en lui, naturellement. On ne naît pas un chrétien, on le devient par la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais invoquer Jésus, c'est dire à partir de maintenant, j'ai vécu pour moi. Mais à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ma vie entre les mains du Seigneur. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour Jésus. Alléluia. Je confesse Jésus comme mon sauveur et je lui donne ma vie. Alléluia. Je lui donne ma vie. Il est mon sauveur. Je m'abandonne à lui. Alléluia. S'il y a des personnes, de telles personnes, au milieu de nous, je vais prier pour ces personnes maintenant. Et s'il y en a, est-ce qu'il y en a, vous pouvez lever votre main là où vous êtes. Oui, Dieu vous bénisse. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oui, oui, faites-le sincèrement. Je vais demander à ces personnes, oui, approchez-vous ici, oui, approchez-vous ici. Maintenant, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous, car nous voulons réellement vous aider. Pas seulement avoir une expérience émotionnelle. Approchez-vous ici, s'il vous plaît. On veut vous aider à expérimenter le plus grand des miracles. Alléluia, pas l'expérience d'un jour, pas quelque chose d'un jour maintenant qui apparaît, qui disparaît ensuite. Le plus grand des miracles, c'est la conversion, la nouvelle naissance, c'est la régénération, c'est recevoir Jésus, le pardon de ses péchés et devenir une nouvelle créature. Alléluia, alléluia. Cet appel n'est pas pour les malades maintenant, hein. C'est pour ceux qui veulent mettre leur vie en règle avec Dieu. Pour les malades, nous prierons après. S'il y en a d'autres encore, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher. Le plus grand des miracles n'est pas la guérison d'un corps, le plus grand des miracles est la guérison de l'âme, le pardon de tes péchés, l'assurance de la vie éternelle. C'est là le plus grand des miracles. Tu peux même expérimenter la guérison dans ton corps et être perdu. Tu peux, c'est possible. Combien de personnes ont été guéries par Jésus? Combien des milliers? Et combien il y en avait à la croix? Combien il y en avait à la croix? Il y en avait presque peu. Il n'y avait pratiquement personne. À la Pentecôte, combien il y en avait? Il n'y en avait plus beaucoup. Ils avaient été guéris pourtant. La preuve que quelqu'un est guéri ne veut pas dire que Dieu, qu'il est sauvé, qu'il est en or avec Dieu. Au contraire, la Bible dit que même Dieu faisait des miracles pour que les gens viennent à la repentance. Voilà pourquoi Dieu fait des miracles. Pour leur dire, eh bien voilà, si je peux guérir ton corps, alors je peux aussi guérir ton âme. Je peux purifier ton péché. Je peux te laver de tous tes péchés et faire de toi un enfant de Dieu. J'en ai le pouvoir et l'autorité. Amen. Alléluia. J'aimerais prier avec vous. Je vais prier et ensuite vous allez prier avec moi pour vous aider à vous repentir sincèrement de vos péchés et recevoir Jésus dans votre cœur comme pour dire, Seigneur, à partir de maintenant, je réalise que je suis perdu. Je ne peux pas me sauver moi-même, ni ma religion, ni mes prières, ni mes souffrances. Rien ne peut me sauver. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous sauve, c'est Jésus. Rien. Alors Seigneur, je viens à toi, je suis perdu. Je suis perdu? Mais toi, tu es venu pour sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Alors je viens à toi, Seigneur, et je t'accepte comme mon sauveur, et je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Viens, viens. Et c'est quand Jésus vient dans votre cœur que vous êtes sauvé. Amen. Voilà. C'est quand il vient. D'abord, vous demandez pardon pour vos péchés. Votre cœur doit être purifié parce que Jésus n'entre jamais dans un cœur qui est souillé par le péché. Jamais. Mais lorsque ce cœur est purifié de ses péchés, par le sang de Jésus, alors la maison est propre. Et vous pouvez dire à Jésus, maintenant, viens dans mon cœur. Et la parole de Dieu dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est cette expérience que Dieu veut que vous fassiez. Une expérience qui va changer votre vie. Vous ne pouvez plus être la même personne. Vous aurez après de nouveaux désirs, de nouveaux sentiments, une nouvelle soif de la parole de Dieu, un nouveau désir de plaire à Dieu. Alléluia. Et de lui être fidèle. Prions quelques instants maintenant. Que tout le monde prie maintenant. Prions tous. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous savons que tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu vois ces chères personnes ici. Tu les connais, tu les aimes, Seigneur. Tu les aimes, tu as aussi donné ta vie pour eux et tu veux pardonner leurs péchés et leur donner l'assurance aussi qu'ils sont sauvés. Seigneur, que leurs prières soient sincères devant toi maintenant afin qu'ils naissent de nouveau, que tu puisses venir en eux et qu'ils soient régénérés par la présence de ton Saint-Esprit et que ce grand miracle s'opère tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voulez-vous tout simplement Prie avec moi, car la Bible dit, c'est celui qui croit du cœur et qui confesse de la bouche qu'il sera sauvé. Alors ce que vous dites de votre bouche, vous devez le croire dans votre cœur. Et un miracle va se passer. Amen. Alléluia. Tout simplement, vous priez, dites Seigneur Jésus, à haute voix. Allez-y.
Seigneur Jésus,
je viens à toi,
tel que je suis.
Selon ta parole,
je suis perdu.
Il n'y a pas la vie de Dieu en moi.
Mais
tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ô Seigneur, c'est pourquoi je viens à toi. Je me repens sincèrement pour tous mes péchés. Tu sais tout ce que j'ai fait de mal devant toi. Je m'en repens. Tout ce que les hommes ne connaissent pas, mais que j'ai fait devant toi et qui t'a déshonoré. Pardonne-moi. Je veux haïr mon péché. Je veux l'abandonner. Je veux changer ma façon de vivre. Oh, je veux vivre une vie nouvelle. Merci, Seigneur. Je crois que tu me pardonnes maintenant. Que ton sang me purifie de tout péché. Je le crois, Seigneur. Ton sang à l'instant me purifie. Je le crois. Merci, Seigneur. Je suis purifié par le sang de Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Et sauve-moi. Je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur. C'est-à-dire que je veux t'obéir tous les jours de ma vie. Alléluia. Tu es en moi, Seigneur. Et selon ta parole, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Merci Seigneur, j'ai la vie éternelle, parce que je t'ai reçu dans mon cœur. Je suis sauvé par la foi, par la grâce, je ne mérite rien, c'est un don de ta part. Merci Seigneur, je suis sauvé ce soir. Remerciez-le, allez-y vous-même, dites-lui, Seigneur merci, tu m'as pardonné. Tu m'as purifié, confessez-le de votre bouche. Tu m'as purifié, tu m'as sauvé ce soir. Tu es venu dans mon cœur. Et je suis ton enfant. Et maintenant je veux t'obéir. Alléluia. Je suis sauvé, Seigneur. Par la foi. Par la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places maintenant. Et nous allons commencer à prier pour les autres aussi. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom.
Dans mon cœur.
Alléluia.
Et dont je ne me rendais pas compte du tout depuis ces derniers temps.
Alléluia.
Autrefois, je me suis intéressée à la radiesthésie et à toutes sortes de sciences. Alors c'est pour cela que je demandais pardon.
Amen. Le Seigneur vous a pardonné. Alléluia. Croyez-le, dites je suis libre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y a que Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Dieu vous bénisse.
Je veux dire quelque chose parce que je crois que c'est pour vous. Le Seigneur m'a montré que quelqu'un était lié. Et j'ai vu ce quelqu'un, sa chaîne tomber.
Alléluia.
Je savais que quelqu'un était libéré cet après-midi.
Alléluia.
Violente de ce que ce monde attend maintenant. Que le monde chrétien attend, qui attend le monde chrétien dans ce monde, à l'avenir, c'est prophétiquement que cela est dit aujourd'hui. Souvenez-vous-en toute votre vie, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je revienne, vous cherchez d'une façon ou d'une autre. Amen. Avant de dire ça, la suite. C'est que, rappelez-vous, que ma présence vous sera accordée dans les moments les plus difficiles de votre vie. Rappelez-vous de cela. Car dans les temps les plus difficiles, vous aurez besoin de réaliser que ma présence vous est assurée à vos côtés et qu'elle vous tiendra. si vous ne lâchez pas ma main. Mais surtout, dans les moments les plus difficiles, ne lâchez pas ma main, dit le Seigneur. Ne la lâchez pas, c'est ce qui vous tiendra. Soyez loyal, fidèle, comme je l'ai été pour vous, à mon exemple sur la croix. Si je me suis abaissée au point de laver les pieds de mes disciples, ne vous ai-je pas appelé à faire de même? Et je vous demande de vous laver les pieds les uns aux autres, d'être dans ce même esprit de serviteur l'un à l'égard de l'autre. Puissiez-vous vous aider les uns les autres, vous aimer l'un les uns les autres comme moi j'ai aimé mes disciples? Puissiez-vous marcher dans un même esprit, tous ensemble unis comme un seul homme. Et vous serez de plus en plus semblable à moi. Et vous reflèterez de plus en plus ma gloire, mon honneur, dans ce monde où chacun ne pense qu'à lui. Alléluia. Soyez serviteurs les uns des autres, nous dit le Seigneur, serviteurs. Servez-vous les uns les autres. Quand l'un a mal, priez pour lui. Quand l'autre souffre, priez pour lui. Engagez-vous. Et c'est comme à moi que vous le faites, amen, dit le Seigneur. À moi. Quand vous priez les uns pour les autres, c'est pour moi, amen, que vous le faites. Et vous en aurez la récompense là-haut. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Alléluia.